Pendant votre sommeil, mesdames, messieurs, le Canadien a transigé et Max Pacioretty est maintenant un joueur des Golden Knights de Las Vegas.
On a annoncé la nouvelle à 1h cette nuit. Le Canadien qui envoie Pacioretty à Las Vegas obtient en retour l'attaquant Thomas Tatar, un espoir qui évolue dans les rangs juniors en Ontario, Nick Suzuki, et un choix de deuxième ronde au repêchage de 2019. Le Canadien va payer 10% du salaire de Pacioretty cette année. Les Golden Knights vont payer 9% du salaire de Tatar pour les trois prochaines saisons. C'est ce qui reste à écouler à son contrat qui lui rapporte 5,3 millions de dollars.
Et ça arrive la journée du tournoi de golf.
Du tournoi de golf. On va avoir les commentaires de Marc Bergevin un peu plus tard ce matin. Écoute, les commentaires sur Suzuki sont assez élogieux. Moi, je le connaissais pas là quand on a annoncé la nouvelle, mais ce que je peux en lire, c'est assez élogieux. Alors, Tatar, c'est un gars d'une vingtaine de buts, 40 points par année à peu près, là. Et t'achètes du temps avec ce gars-là en espérant que Suzuki, Ryan Poehling et Kotkaniemi deviennent les joueurs de centre ou les joueurs que t'espères qu'ils vont devenir.
Et ce matin, nous allons modifier un peu le cours normal de l'émission. Ça devient « Bonjour les sportifs ».
D'ailleurs, c'est la semaine du grand retour du prophète.
Exactement.
Qui sera au tournoi de golf ce matin, tout comme Danny, et qui revient en ondes demain.
Voilà.
Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Alors, on va aller retrouver Ron Fournier et Danny Dubé. Salut les gars.
Salut tout le monde.
Alors, vos impressions sur cette transaction,
Ron?
Le DG a négocié jusqu'à la dernière minute. Il n'y avait aucun doute dans ma tête, les amis, que le capitaine du Canadien serait échangé avant le début de la saison. Puis le début de la saison, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est à Laval sur le lac. Puis Max Pacioretty, c'était certain qu'il se retrouverait ailleurs qu'à Montréal comme capitaine. Je ne sais pas, mais certainement ailleurs. Parce que le DG, l'entraîneur, les adjoints, le président savaient qu'il fallait un changement d'air de ce côté-là, autant pour Galchenyuk que Pacioretty. Alors, le capitaine, le Canadien reçoit Tatar. C'est qui Tatar? C'est-tu un Ryder? C'est-tu un Vanek? Un bon marqueur? Un gars qui va à rondelle, mais pas le plus vaillant? Peut-être. Suzuki, Alain l'a bien expliqué, c'est le joueur d'avenir. C'est l'élément important, l'élément clé, mais pas pour cette année, pour les années à venir. Puis le choix de deuxième ronde, on ne crache pas là-dessus.
OK, Danny?
Ben, écoute, déjà, au départ, déçu, très déçu de voir Pacioretty partir. Je pense que ça, comme le Ron l'a dit, ça met vraiment fin à une époque. Et là, on tourne la page, on s'en va vers l'avenir. Alors, c'est sûr qu'on est plus en mode long terme que court terme chez le Canadien de Montréal. Ceci étant, Tatar, c'est pas... Je pense pas que personne va tomber en amour avec le joueur à Montréal, là, parce que, écoute, il a même pas joué dans tous les matchs des séries avec les Golden Knights. Donc, lui, c'est un peu un mal-aimé là-bas. Je pense pas qu'il va arriver à Montréal et qu'il va devenir un joueur complètement différent. Alors, oui, c'est un gars d'une quarantaine de points, c'est un gars de 20 buts à peu près. Il fallait prendre un salaire du côté du Canadien pour réussir à compléter cette transaction-là. C'est la raison pour laquelle Tatar s'amène à Montréal. En ce qui concerne le jeune Suzuki, là, écoute, on est dans un autre spectre. C'est un jeune joueur dynamique qui amène une dimension complètement différente des deux autres joueurs de centre du Canadien qui sont plus costauds, plus des joueurs qui ont dit là, de la fiabilité dans toutes les phases de jeu. Hier, ce match à Laval, je suis allé voir jouer les Tatarini. Et vraiment, on sait qu'on voit tout de suite là, qu'il y a encore un peu de gêne dans son jeu, si vous prêtez l'expression, être pas prêt pour la Ligue nationale, mais il démontre définitivement de belles attitudes, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur engagé. On voit son sens de la compétition, on peut l'apprécier. Donc, c'est sûr que Suzuki va amener cette dimension-là. Il peut jouer parmi les deux premiers centres d'une équipe de la Ligue nationale, j'en suis convaincu. Déjà, au repêchage, c'est ce qu'on nous dit.
Bon, messieurs, moi, ce matin... À mon avis, le Canadien a une moins bonne équipe que quand on s'est couché hier soir, là. Mais est-ce que c'est pas un passage obligé pour, dans quelques années, avoir un club qui va être compétitif pendant 7, 8, 9, 10 ans, là?
Ben oui, absolument, Alain. C'est exactement ça. Là, on peut parler officiellement, là. Ils devraient le dire, eux autres, ce matin. On est en reconstruction. On rebâtit cette équipe. On a des éléments le fun là, à venir, là. Des joueurs comme Surbach, Poehling, Kotkaniemi, Yosun, Mettez, de bons jeunes joueurs. Vous allez me dire tout de suite, je sais, Ben oui, mais Price, lui, écoute, c'est tout de suite qu'il veut gagner tout ça. Je comprends bien ça. Là, fais ta job, là. Puis du mieux que tu peux, là, mais pour le moment, là, on va essayer de faire les séries du mieux qu'on peut, mais on va développer. Développer ces joueurs-là avec Joël dans, à Laval et tout ça. Alors, c'est ça. On rebâtit, on reconstruit, on est patient, on vit avec ça. On espère que les petits bébés vont nous donner le meilleur d'eux-mêmes.
Danny?
Aucune garantie que de descendre va te permettre d'être meilleur.
Mathieu, je peux t'en parler, j'ai été à Québec. Tu sais quand ça commence, mais tu sais pas quand ça finit une reconstruction.
Exactement. T'as aucune garantie. D'ailleurs, écoute, le Canadien de Montréal, dans les prochaines années, va vraiment être sur le grill au niveau de son habileté à repêcher des joueurs. Là, on dit qu'on est capable de les développer parce qu'on a de bons entraîneurs dans la Ligue américaine, un changement d'air, tout ça. Et j'adhère à ça. Moi, je suis un fan des gars qui sont là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si tu ne donnes pas de matière première aux entraîneurs, m'excuse, là, mais à un moment donné, là, c'est comme de pelleter les nuages et d'être animé par la pensée magique. Donc, c'est un grand risque que le Canadien vient de prendre. Et est-ce que c'est un passage nécessaire? Ben, écoute, ça dépend à qui tu parles. Si tu parles aux Penguins de Pittsburgh, les autres disent que c'est pas nécessairement la voie de la réussite.
Il y en a ouais, mais ils sont passés par là dans le temps, par exemple.
Ah oui, mais ils sont passés par là. Le Canadien aussi est passé par là à un certain moment donné. Là, ça fait si le Canadien rate les séries cette année, Alain, ça va faire trois fois là
en quatre ans.
Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faudrait que ça paye. On s'y est pris en retard un petit brin aussi. Hein? On s'y est pris en retard. Pourquoi qu'on s'y est pris en retard? Parce qu'à Montréal, là, on peut pas accepter de ne pas participer aux séries de fin de saison. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Hein? On a colmaté un petit peu. On va aller chercher un. Tu sais, je veux dire, mais là, on réalise. On n'est pas. Tu sais, on est né ce soir, pas hier soir, là. Réalisons une chose, là. On n'a pas une équipe pour faire les séries cette année. Si jamais on joue à la Vegas cette année, puis on fait une série, puis on gagne une ronde, ben bravo, on fait ça, là. Ça serait être partout au village. Mais pour le moment, là, acceptons le fait qu'on rebâtit ça, cette équipe-là, pour moi, je suis les bons joueurs, ouais. tout ça. Maintenant, qui va payer la note? Vas-tu avoir quelqu'un qui va payer la note? C'est-tu le directeur général qui va payer la note? Ben, ils feront ce qu'ils voudront. C'est M. Moutine qui décide. Entre-temps, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction.
Okay. OK, messieurs, merci.
Merci. Merci beaucoup, c'était Ron Fournier, bon Danny Dubé. Oui, je vais t'en route pour le tournoi de...
Oui,
tu t'en vas tantôt, oui.
Là, on va changer de sujet complètement, oui. Paul. On va parler de tennis. On va parler de ce qui s'est passé à New York en fin de semaine lors de la finale chez les femmes. Serena Williams, d'abord, qui a été battue par la jeune japonaise en deux manches. Là, on va dire une chose en partant, là. Elle a été dominée. Elle a été clairement battue par la japonaise. Sauf qu'elle a eu un différend avec l'arbitre et elle a reçu des sanctions. Elle a été mise à l'amende et ça a suscité un paquet de réactions. Et pour en parler, une qui était aux premières loges à ce moment-là, c'est Hélène Pelletier, parce qu'elle décrivait le match à la télévision. Salut Hélène.
Bonjour messieurs.
Hélène, ce matin, il y a la WTA, entre autres, qui dénonce le traitement réservé à Serena Williams. Est-ce qu'au tennis, c'est deux poids, deux mesures? Parce que j'ai vu des commentaires, notamment c'est Blake, là, je pense que c'est James Blake, l'ancien joueur...
L'Américain.
Il a dit, moi, j'ai dit des affaires bien pires que ça, puis j'ai eu des petits avertissements mous, mollassons un peu. Il dit, lui, c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures au tennis.
Ben, en fait, c'est la discussion, vous savez, peut-être que oui, peut-être qu'on traite Serena Williams de façon un peu sévère dans ce match-là, mais elle a aussi couru à sa perte. Et vous savez, dans la vie, on traîne toujours aussi sa réputation. Et c'est la troisième fois que Serena Williams est au centre d'une controverse. En 2009, elle avait reçu une faute de pied à un moment crucial, puis là, elle s'était engueulée avec l'arbitre, la traitant de tricheuse, qu'elle était une femme qui était laide à l'intérieur, puis elle n'arrête pas, elle perd le contrôle de ses émotions, et finalement, le match revient à Clijsters. 2011 contre Stosur, en demi-finale encore, elle lâche un gros commande avant la fin d'un point et on juge que le point revient à l'adversaire parce que le point n'était pas terminé. Elle n'a pas le droit de déranger comme ça en plein milieu d'un point. Elle pète les plombs à nouveau et dit à l'arbitre, c'est pas toi la dernière fois qui avait été injuste envers moi. Puis elle se trompe d'arbitre dans le fond et là, elle perd complètement le contrôle. Puis elle avait aussi traité une juge de ligne de menteuse qu'elle allait prendre la balle, la F balle, lui lancer dans la gorge et la tuer. Elle a perdu le contrôle, puis elle a perdu le contrôle aussi dans ce match-là. Alors, est-ce que c'est injuste? Peut-être qu'on aurait pu tout simplement dire à Serena, un changement de côté, ton coach, là, Patrick Mouratoglou, il fait des gestes, et ça, on appelle ça du coaching. Du coaching, c'est encore illégal au tennis.
Justement, j'aimerais t'entendre là-dessus, parce que est-ce qu'il n'est pas temps de changer la règle? J'écoutais son entraîneur en entrevue.
Oui, c'est fou.
Il a dit, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, du coaching.
Tout le monde le fait, mais tu sais, quand tu te fais prendre pour une infraction, de dire que tout le monde le fait, c'est pas tellement solide devant
oui.
un juge. Tu comprends? En cours non plus. Alors, il faut aussi réaliser que, oui, elle a été pénalisée, mais pour des choses qu'elle a faites, et c'est automatique. La raquette cassée par la suite, ça, c'est un point de pénalité, c'est automatique, plus une amende au total de 17 000 $. Et après, ben, quand tu engueules l'arbitre et que tu le traites de voleur, de menteur, que tu l'accuses de sexisme, de racisme, à un moment donné, Alain, quand t'insultes un officier de la loi, c'est sûr qu'il peut pas tout prendre comme ça. Tu l'as insulté devant des millions et des millions de personnes.
Mais
ça n'avait pas de sens ce qu'elle a fait. Alors, elle a été pénalisée. Mais c'est vrai que, juste regarder la finale de Djokovic hier, il a été superbe pour dominer Juan Martín Del Potro. Durant toute la quinzaine, messieurs, dès qu'un joueur dépassait le 25 secondes entre les points, on lui donnait un avertissement d'abord et par la suite, c'est un service de perdu et le point de perdu pour la troisième fois.
Mais Hélène, est-ce que tu penses que...
Il a régulièrement dépassé le temps. Régulièrement, il a dépassé le temps puis on l'a juste averti à la toute fin.
Ben c'est ça. Est-ce que tu penses qu'un traitement différent, quelqu'un qui aurait tenu les mêmes propos que Serena Williams en fin de semaine, un gars, là, ça aurait passé peut-être différemment que ce qui s'est, en fait, ce qui est arrivé avec
Écoute,
Serena?
Mais c'est une autre époque, mais souvenez-vous de John McEnroe dans le temps, Élie Nastasé, là. C'était pas des reposants, ça, là.
Non, c'était fou. Puis d'ailleurs, John McEnroe, ça a mal fini sa carrière en Australie. Il a été sorti du court en plein milieu du match. Éventuellement, ces gens-là, ils vont trop loin. Et Serena, je sais que ça peut paraître injuste, mais un grand coach comme Patrick Mouratoglou qui dit « Tout le monde le fait. Pourquoi moi j'ai été pénalisé? » Mais oui, mais le point, il est pas là. Tu le fais et c'est illégal. Elle a cassé sa raquette, ça devenait... Tu sais, toutes ces choses-là, c'est automatique, on n'a pas inventé un règlement. Alors, moi, personnellement, l'attitude qu'elle a eue, puis quand elle a pété les plombs, puis qu'elle a engueulé l'arbitre pendant 2 minutes non-stop, j'ai trouvé ça too much. Puis dans un sens, ben elle mérite un peu aussi ce qui lui arrive, mais c'est vrai que le temps serait peut-être venu, dans un premier temps, d'abolir cette loi ridicule. Je pense que c'est le seul sport où tu n'as pas le droit à ton coach. Et deuxièmement, il faut que Serena fasse son mea culpa aussi, parce qu'à la toute fin, elle était complètement gaga, elle mêlait plein de choses ensemble, puis elle traîne cette vilaine réputation, surtout au US Open. Elle n'est pas une première frasque, c'était littéralement la quatrième fois. Tu peux pas engueuler des agents de la paix ou des arbitres ou des juges, tu peux pas les menacer de mort. Puis hier, sans faire ça exactement, elle est allée trop loin.
Merci beaucoup, Hélène.
Merci, Hélène.
Ça fait plaisir. Bye-bye.
Et là, il y a la foule qui a embarqué, en plus, parce que la foule était...
Non, mais c'est comme si t'es sur l'autoroute 20, là, puis que tu roules à 125, puis la SQ t'intercède, tu dis, c'est parce que tout le monde le fait, tu vas voir que ça change pas grand-chose.
Ça change pas grand-chose. Mais c'est un fait, tu sais, y a-tu quelque chose de plus important que la relation entre un athlète et son entraîneur? Et au tennis, t'as pas le droit. Tu peux pas communiquer avec ton entraîneur. Là, on parle de communication par geste.
Ouais,
là,
oui.
Évidemment, il n'y a pas de contact. C'est pas de... Mais c'est parce qu'il aurait fait un petit geste qui a été capté.
Fait que là, tu t'en vas jouer au golf tantôt.
Oui.
T'étais pas sur le quatuor de Max?
Non. Je sais pas qui a tweeté ça. Là. C'était un collègue. Il écrit « Pense à ceux qui ont payé des milliers de dollars pour jouer avec Max Pacioretty aujourd'hui.
Ah, » ça, qu'est-ce que tu veux? Il est occupé... Voilà.
Faut dire qu'à Vegas, il va pouvoir jouer 12 mois par année.
Certainement. Ils vont payer moins d'impôts aussi.
En plus, il n'y a pas d'impôts d'État.
Ça va être bien. 8h31, la 13.